une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va pas juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Reste un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, prof d'éco en prépa à Sarcelles, et aujourd'hui je vous emmène à Citéco, la cité de l'économie. On y a enregistré en direct et en public un épisode de Splash le 15 avril dernier. Mais vous allez vite remarquer qu'il y a de bonnes raisons de le diffuser aujourd'hui, le jour de la fête du travail. Je voudrais commencer par évoquer une manifestation, pas très nombreuse ni très visible, qui a eu lieu le 4 mars dernier. Il s'agissait d'une réunion publique du collectif Famille Stop à la mort au travail, qui dénonce la faiblesse des mesures prises pour lutter contre les accidents du travail, qui ont fait l'an dernier 645 morts. Les morts au travail, ça paraît sans doute une exception, et même pour certains, anecdotique. Une série de cas particuliers, en somme. Mais ce que disent les familles des victimes, c'est qu'il s'agit de la partie émergée d'un iceberg. Un continent de souffrances silencieuses, comme on a pu l'écrire à propos des suicides au travail, chez Orange ou EDF. Et le plus surprenant, c'est finalement que se créent des collectifs sur ces questions d'accidents du travail, alors qu'en France, depuis plus d'un siècle, on a peu vu de mouvements sociaux s'emparer de ces questions. Je voulais commencer par parler de mouvements sociaux parce que c'est un des sujets chroniquement absents des discours sur l'avenir du travail, ou la fin du travail, ou le renouveau des organisations du travail. Or, historiquement, les changements technologiques majeurs donnent toujours lieu à des conflits sociaux, ne serait-ce que sur l'appropriation de la valeur ajoutée ou sur le temps de travail. Nous vivons en ce moment un mouvement social très fort, résolument tourné vers l'avenir par construction, mais qui pose assez peu la question des conditions de travail, de la pénibilité du travail et de l'organisation du travail. La faute en revient aux promoteurs de l'actuelle réforme des retraites, bien évidemment, mais peut-être aussi aux organisations syndicales qui ne se sont pas beaucoup emparées de ces questions. On a discuté de ces sujets avec nos deux invités, Annie Jolivet, économiste au CNAM, et Sébastien Carbonel, sociologue à l'IDHES. Et j'avais envie, pour trancher un peu avec la période de recul des droits sociaux que nous vivons, de poser une question assez optimiste. Est-ce que l'avenir du travail, c'est la fin de la pénibilité ? Autrement dit, est-ce que les changements technologiques, mais aussi les conflits et les négociations auxquelles ils donneront lieu, peuvent laisser entrevoir un avenir meilleur où les salariés ne seraient plus abîmés par leur travail? D'ailleurs, la question ne se limite sans doute pas aux salariés. Est-ce que l'on peut au contraire pronostiquer que de nouvelles maladies, ou d'anciennes, continuent à éprouver le corps des travailleurs et des travailleuses? Bref, pour le dire encore autrement, est-ce que on n'est plus dans Germinal, comme on l'entend souvent? Alors, la fin de la pénibilité est-elle l'avenir du travail? Réponse avec nos invités.
Je vous donne la parole dès maintenant en commençant par cette question-là et je vais m'adresser d'abord à Annie Jolivet en te demandant, on va se tutoyer, comment est-ce qu'on définit la pénibilité, sachant que, et je sais que l'équipe avec laquelle tu bosses publie récemment une note là-dessus qui fait des comparaisons internationales, ça donne lieu justement à des définitions très différentes suivant les contextes nationaux. Comment est-ce que notamment en France, on définit ce que c'est qu'un métier pénible ou qu'un travail pénible? Est-ce que c'est une question de degré? Est-ce que c'est une question d'exposition à des risques professionnels? Est-ce que c'est par nature certains métiers qui sont reconnus comme tels ou pas?
Alors en France, on a eu du mal à mettre en place une définition puisque la réflexion s'est enclenchée en voyant diminuer les pré-retraites publiques et en se rendant compte qu'il y avait un certain nombre de personnes qui, dans les années 80-90, se retrouvaient à des âges relativement précoces, sortis de l'emploi. Et en plus, ça tombait bien parce qu'une bonne partie de ces personnes-là étaient aussi avec des parcours usants. Donc, ça réglait d'une certaine façon le problème et ça invisibilisait assez largement les conséquences du travail sur la santé dans toute une série de secteurs, le textile, la chimie, etc. À partir de 2000, donc, on a commencé à réfléchir à ça dans plusieurs instances, des syndicats, des chercheurs. Et en 2003, la loi sur la réforme des retraites a placé la pénibilité du travail explicitement dans la loi en annonçant une négociation qui, au départ, qui a un peu changé de forme et qui est devenue une négociation interprofessionnelle. Simplement, la négociation c'est pas vraiment enclenché tout de suite et ensuite elle s'est enclenchée en 2005 puis ça a été très long, elle a capoté en 2008, faute d'accord et du coup le législateur a repris en 2010 une définition. Vous voyez le temps passé entre 2003 et 2010 pour arriver à une définition légale donc qui est toujours valable, on n'avait pas encore de compte pénibilité. Donc en gros le choix qui a été fait c'est de viser non pas des métiers mais des expositions. En considérant des effets, on considère des expositions qui ont des effets alors durables, irréversibles, et j'oublie le troisième, sur l'espérance de vie en bonne santé. Ce qui veut dire qu'on va pas considérer la pénibilité comme dans d'autres pays en lien avec le fait d'être malade, par exemple, d'avoir une maladie professionnelle, d'avoir des atteintes à la santé qui sont avérées, mais on part dans l'idée que c'est ça les effets probables. En se fixant là-dessus, on est sur une vision probabiliste, c'est-à-dire sur la probabilité qu'on peut estimer que les gens pourraient connaître des atteintes à la santé en lien avec leurs expositions. Certains d'entre eux peuvent ne pas les connaître, certains les connaîtront pendant leur vie de travail et d'autres ne les connaîtront, ces effets sur la santé, qu'à la retraite. Et l'idée, c'est d'avoir une définition qui prenne ça en compte. Alors, ça, c'est la définition. Et puis après, on a une liste de facteurs qui ont été donc facteurs de pénibilité, qui est une liste limitative de conditions de travail, avec à la fois des durées d'exposition exigées et des seuils d'intensité exigés. Donc, c'est assez complexe. Et pour résumer les choses, en fait, les seuils ont été fixés assez haut. Enfin, je vais donner juste un exemple. Des déménageurs, par exemple, dont on a tous l'idée que leur travail est quand même pénible, ce sont des gens qui ne rentrent pas dans le critère de pénibilité port de charges lourdes. Parce qu'ils ne portent pas de charges lourdes la totalité de leur journée de travail, hein, et le fait d'avoir fixé un seuil qui est en gros la moitié de la journée de travail fait que tout le moment où ils installent les charges dans le camion, les transports du lieu de stockage au lieu de déménagement, le fait de monter les escaliers, la préparation du chargement, ben, toutes ces étapes-là, en fait, elles sont pas intégrées dans la durée d'exposition et donc ça les sort d'un critère pénibilité.
Alors, ce qu'on peut dire au regard de ce que tu étais en train de développer, c'est que pendant longtemps, on a fait comme si la pénibilité était quelque chose qu'on allait reléguer du côté des pré-retraites. Donc, on le gérait en faisant partir plus tôt, tout simplement, des gens de l'emploi. À l'heure actuelle, les réformes qui ont été mises en place sont, on peut le dire maintenant, assez hautement insuffisantes pour faire en sorte que ce soit un objet de négociation et pour faire en sorte qu'il y ait un nombre suffisant de travailleurs qui soient correctement pris en charge du point de vue compte pénibilité, n'est-ce pas ? Pour le dire de manière plus simple, à l'heure actuelle, il y a très peu de gens, finalement, il y a quelques milliers de personnes qui ont recours à cette...
J'ai entendu hier un éditorialiste expliquer qu'il n'y avait pas de problème, le taux d'emploi pouvait augmenter, la preuve, il était... Enfin bon, bref. Je voulais quand même rappeler que les questions de santé et le fait de sortir précocement du travail parce qu'on n'est plus en capacité de le faire, c'était déjà repéré avant que l'âge de la retraite, enfin l'âge d'ouverture des droits, passe de 65 à 60 ans. Et quand on regarde bien la courbe de soit le taux d'activité, soit le taux d'emploi, on voit bien que la baisse, elle est avant que l'âge de la retraite soit passé à 60 ans. Et en fait, cette baisse, elle n'est pas juste liée aux pré-retraites, elle est liée aussi au fait qu'une partie des gens n'arrivait pas à tenir jusque-là et qu'on avait beaucoup de sorties en inactivité. Donc ça, c'est avéré. Donc, partant de ce constat sur le passé et partant du constat qu'il existe aujourd'hui pas mal de personnes qui sont en maladie professionnelle, on sait que les maladies professionnelles sont sous-déclarées. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des troubles, ce qu'on appelle infrapathologiques, c'est-à-dire qui ne donnent pas lieu à reconnaissance de maladie professionnelle ou de maladie. Ça peut quand même les empêcher de travailler. Et puis par ailleurs, il y a des maladies qui ne sont pas professionnelles, par exemple un cancer, qui peut poser problème aussi pour rester dans l'emploi. En fait, tous ces éléments-là amènent à dire que la question de rester en emploi jusqu'à un âge plus élevé soulève forcément la question de l'état de santé des personnes, d'un côté, et de l'autre côté, les conditions de travail qui sont à même ou pas de tolérer ces atteintes à la santé ou ces moindres capacités. C'est pas parce qu'on a un cancer qu'on est inapte au travail. Par contre, on peut avoir besoin d'avoir des conditions de travail qui permettent, par exemple, pouvoir s'absenter, par exemple, ne pas être sous la pression du temps ou avoir, des conditions, par exemple, d'hygrométrie et de chaleur qui peuvent être aussi importantes. Je me demandais, mais il y a très peu de gens aujourd'hui. Enfin, c'est quand même... Le message de la note là que j'ai préparée, c'est très difficile d'avoir des statistiques de tous les pays européens parce que tous les dispositifs sont différents et on rentre dans des choses assez compliquées. Mais pour la France, c'est clair, le dispositif du compte pénibilité, je vais être cash, a été conçu pour qu'il y ait peu de gens qui accèdent, enfin qui cumulent des points. Les seuils d'exposition, je l'ai dit, sont très élevés. Ils ont été choisis pour ça. Alors, je vais juste rester sur le compte pénibilité. Les seuils sont très élevés. En plus, il n'y a pas d'effet rétroactif. Donc, en fait, pour gagner des points, on les gagne qu'à partir du moment où le compte a été créé. Donc, ça se fait très lentement. Et puis, à partir de 2017, on a cisaillé 4 facteurs sur les 10. Et comme par hasard, quand vous cisaillez des facteurs, ça veut dire que vous réduisez potentiellement la diversité des personnes qui peuvent rentrer dans ce champ. Donc, évidemment... ça laisse quand même des points à acquérir pour les autres, mais ça ne permet pas évidemment de les acquérir au même rythme. Tout bien considéré, en considérant les gens qui n'ont pas intérêt à prendre leurs points, les gens qui ne savent pas qu'ils ont des points et qui partent à la retraite en découvrant à la retraite qu'ils auraient pu partir avant, il y a en 2022 1000 personnes qui sont parties en retraite avec des points pénibilité. Ça calme un peu.
Ouais, là, on a une sorte de silence qui a duré quelques secondes. Si on prend un peu de recul historique, justement, est-ce qu'on peut dire que les changements technologiques, historiquement, ont permis d'alléger la pénibilité d'un certain nombre de métiers? Est-ce qu'on peut avoir confiance dans cette dynamique pour les siècles à venir? Peut-être pas, mais les années à venir et les décennies qui sont devant nous. Je me tourne vers toi, Sébastien.
C'est encore une question complexe, dans le sens où on est bien évidemment tout de suite invité à répondre non, mais une fois qu'on fait, quand on fait des enquêtes de terrain et on demande même aux ouvriers, ouvrières, qu'est-ce qu'il en est des effets des nouvelles technologies sur le travail en termes de pénibilité, d'intensité du travail, de santé, etc. Les choses sont un peu plus compliquées, dans la mesure où, je vais donner un exemple que j'ai étudié dans ma thèse et qui en réalité est assez fréquent dans le cadre de l'industrie automobile aujourd'hui, qui est l'introduction de nouvelles méthodes d'organisation du travail qui consistent à décomposer le travail du monteur, de l'ouvrier qui monte les pièces sur le véhicule, en deux. D'un côté, il y a le préparateur des pièces, le kitter, comme on l'appelle, parce qu'il prépare des kits qui vont ensuite être ramenés au poste de montage, et vous avez ensuite le monteur qui monte les pièces sur le véhicule. Et le véhicule qui fait le chemin entre l'espace de préparation ou l'espace de kitting et le poste de monteur est un nouveau robot, on appelle ça un AGV, Automated Guided Vehicle, qui est un robot phylo-guidé issu des bandes magnétiques au sol. D'ailleurs, aujourd'hui, ils sont en train de discuter de le rendre indépendant de ces bandes magnétiques au sol. Et la direction de l'entreprise a présenté cette innovation comme une manière de soulager les ouvriers monteurs dans la mesure où ceux-ci n'auraient plus à porter les pièces de l'espace préparation jusqu'au poste de montage. Et souvent, ça pouvait être des pièces, là aussi, relativement lourdes. Et la direction a décidé donc d'automatiser un certain nombre de tâches et donc de décomposer le poste de monteur en deux. Que se passe-t-il? Bien sûr, les ouvriers, certains ouvriers disent qu'ils sont relativement contents de ne plus avoir à porter ces pièces de l'espace de préparation jusqu'au poste de montage et de ne plus avoir aussi non plus de charge mentale qui consiste à vérifier qu'ils ont la bonne pièce, parce que le propre du kitting est de livrer la bonne pièce sur le bon véhicule au bon moment. Mais, et c'est un mais qui est très important, ceci fait en même temps que les ouvriers se concentrent davantage sur les gestes de montage qui sont, selon l'entreprise, les gestes à valeur ajoutée. Et donc, il y a en même temps une intensification du travail. Donc, s'il y a un allègement des charges lourdes, il y a de l'autre côté une intensification du travail. Ça, c'est pour l'industrie. Dans le cas de service, on trouve aussi des effets paradoxaux des nouvelles technologies. Par exemple, le télétravail, il y a une note magnifique de la DARES là-dessus qui montre que les télétravailleurs intenses, donc des gens qui font entre 1 et 4, voire même 5 jours de télétravail par semaine, sont des gens qui déclarent plus d'autonomie au travail, donc ils peuvent gérer plus facilement leurs horaires, des choses comme ça. Mais ceci provoque, par exemple, un allongement de la durée de travail, plus de flexibilité sur le temps de travail et en termes de pénibilité, de santé, etc., plus de troubles de sommeil et plus de douleurs, parce qu'ils sont plus immobiles, parce que leur siège n'est pas forcément ergonomique, etc., etc. Donc il y a cet effet très paradoxal. Et de l'autre côté, les nouvelles technologies peuvent aussi avoir pour effet tout simplement de dégrader des conditions de travail, de provoquer des conditions de travail néfastes. Il y a le cas très connu des modérateurs de contenu. Voilà, c'est des gens qui sont exposés H24, enfin pendant leur durée de travail, à des contenus violents, à des contenus haineux, etc. Et donc ça provoque aussi des formes de souffrance au travail qui sont déjà peu dissibles, enfin ils sont pas visibles parce que beaucoup d'entre eux travaillent dans des call centers soit chez eux. Voilà. Et juste je reviens sur la question des télétravailleurs, ça se marie ou ça se croise aussi avec la propriété sociale des individus, dans la mesure où ces télétravailleurs qui déclarent le plus avoir des troubles de sommeil, de douleur, un allongement du temps de travail, etc., c'est des femmes. Voilà. Donc, on voit aussi que les nouvelles technologies ne libèrent pas les individus des pénibilités, des mauvaises conditions de travail. J'aurais tendance plutôt à dire que c'est le contraire, mais toujours avec des effets relativement paradoxaux quand même.
Sur cette question, Annie Jolivet, peut-être.
Moi, je travaille avec des ergonomes. Hein, donc, j'ai assez comme réflexe de dire que pour apprécier les effets d'un changement technologique ou d'un changement d'organisation sur les salariés ou les travailleurs, parce que c'est pas seulement des salariés, il faut vraiment regarder l'activité du travail finement. Et c'est comme ça qu'on arrive à débusquer, en fait, ce qui peut être des effets un peu mécaniques, pas mécaniques au sens propre du terme, mais qui vont être des effets qu'on peut attendre un peu systématiquement. Je me souviens d'un propos sur les exosquelettes, hein, l'idée qu'en portant des exosquelettes, on va diminuer les sollicitations sur les muscles et sur certaines articulations. Mais quand on regarde finement comment les choses se passent, que ce soit dans des études de laboratoire ou dans l'activité de travail, ce qu'on voit, c'est que tout dépend de la nature de la tâche. Est-ce que c'est une tâche statique? Est-ce que c'est une tâche dynamique? Tout dépend de l'environnement de travail. Est-ce qu'on doit se déplacer dans un univers où on a la place? Ou est-ce que c'est un univers qui est contraint? Et après, il y a les contraintes de rythme qui jouent énormément. Est-ce qu'on va travailler en accéléré? Parce que du coup, puisqu'on porte un exosquelette et que du coup, on a moins de charges à porter, alors on peut, enfin, l'employeur peut se dire, je peux accélérer les choses puisque la personne souffre moins. Enfin, et à ce moment-là, ce qu'on va perdre en port de charge immédiat, en fait, il peut se traduire par une sursollicitation articulaire ou musculaire, voire cardiovasculaire, parce qu'il va falloir faire plus vite. Donc, c'est seulement en regardant tout ça qu'on arrive à savoir ce qui se passe vraiment et quelles sont les conditions dans lesquelles ces améliorations, enfin, ces changements provoquent plutôt des améliorations et plutôt pas. Et qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'organisation, par exemple, pour qu'on soit plutôt du côté des améliorations et pas du côté des altérations supplémentaires. Et ça, c'est très, très compliqué parce qu'il y a une vision de la technologie qui est il suffit de mettre en place l'outil ou le matériel et ça va. Mais non, en fait, ça rejoint la question que tu posais. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus avancé sur la question des négociations, etc. Mais parce que la question du travail n'est pas quelque chose qu'on prend de l'extérieur avec des grandes catégories et en faisant paf, paf, ça y est, on va régler la question. Ça demande une capacité à analyser les choses, à comprendre l'activité de travail, à accepter qu'il y a des choses qui soient améliorables, même si ce sont des salariés qui disent non, là, ça ne va pas. Et donc, ça repose aussi la question de l'initiative de l'employeur, presque unique, enfin, privilégié en France. L'employeur en France est celui qui est responsable de l'organisation du travail. Donc, le côté discussion avec les salariés sur les effets réels du travail et sur les pièges d'une amélioration envisagée, cette question-là n'est pas forcément abordée. Elle est difficilement abordée dans la plupart des entreprises.
Alors, il y a plein de choses sur lesquelles je voudrais revenir dans les deux interventions que vous venez d'avoir. Je commence par ce que vous décrivez tous les deux comme une sorte d'effet rebond avec de l'intensification du travail qui suit souvent des outils ou des organisations qui paraissent de prime abord faciliter les choses pour un certain nombre de tâches, ne serait-ce que ça. Est-ce que la réponse à ça, moi je pense à un épisode qu'on avait fait avec Philippe Askenazy sur la réduction du temps de travail, Philippe Askenazy connaît bien aussi, hein, c'est ce qu'il appelle le nouveau productivisme, est-ce que la réponse à ça c'est pas tout simplement moins de travail? Est-ce que est-ce que l'avenir du travail ça peut être aussi des durées de travail de moins en moins élevées, de manière hebdomadaire, rêvons un peu sur l'ensemble de la carrière, pour faire face justement à cette intensification qui est de fait acceptée, c'est ce que tu disais, voire encouragée par un certain nombre d'employeurs?
Je dirais oui, moins de travail, mais aussi un meilleur travail. Parce qu'en fait, un effet paradoxal des 35 heures, toutes les enquêtes le montrent. Il y a eu énormément de rapports, de thèses, d'articles, d'enquêtes sur la mise en place des 35 heures et les effets de la mise en place des 35 heures sur les conditions de travail. Ceci montre que ça s'est fait parfois même au détriment des conditions de travail. Dans le cas de l'industrie automobile, pour reprendre toujours ce cas-là, ça a provoqué davantage de flexibilité du temps de travail. Donc, en gros, les salariés faisaient en 35 heures ce qu'ils faisaient autrefois en 39, en 40, etc. Donc, sur l'année, le temps de travail hebdomadaire moyen est 35 heures, mais avec des variations très grandes, ce qui provoque aussi, là encore, en termes de pénibilité, beaucoup d'effets négatifs. Des cycles de travail de 6 jours, qui commencent à 6 heures et qui finissent à 13 heures. C'est une fatigue difficilement récupérable, y compris la semaine d'après. Donc, c'est une fatigue qui se cumule sur des semaines, etc. Les 35 heures, c'était une bonne chose mal faite, comme dit Victor Hugo au sujet de la Commune de Paris. C'est-à-dire que ça a eu cet effet paradoxal. Et donc, aujourd'hui, on pourrait demander la semaine de 32 heures, de 30 heures, etc., mais toujours avec quelle mise en place, quels effets, etc. Et c'est pour ça que la question d'un meilleur travail est, à mon avis, aussi importante que celle de la réduction du temps de travail.
La réduction du temps de travail, ça peut être une opportunité, mais ça peut être un piège. C'est-à-dire, si on la prend comme une réduction à charge de travail identique, quelque chose qui permettrait, par exemple, d'installer des périodes de récupération qui soient mieux pensées, ou bien de donner aux salariés plus d'autonomie pour quand ils ont besoin d'heures à dégager, ça peut être plutôt positif. Le piège, c'est quand, on le sait, hein, quand il y a eu de la réduction du temps de travail, on passe aux 35 heures, en fait, il y a eu une augmentation de la productivité. Et on n'a pas perdu que ça, c'est-à-dire donc l'intensification, elle s'est faite parce que en fait, on a fait la même chose pratiquement en moins de temps, donc il y a eu un saut. Et puis, on a perdu aussi des choses qui apportent des éléments de respiration au travail. Par exemple, je me souviens que dans l'industrie, il y a eu beaucoup de suppression des temps de pause. Enfin, plus exactement, on a compacté les temps de pause et on a obtenu en fait la réduction de la durée du poste en supprimant les temps de pause qu'on avait mis à la fin. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, votre poste, il est peut-être plus court, mais vous avez moins de pause pour le faire. Donc, essayez de s'imaginer de devoir rester posté, admettons que ce ne soit que pendant 6 heures, ce qui est déjà très peu, pendant 6 heures avec deux pauses de 10 minutes. En fait, vous n'avez pas le temps de sortir du travail. Le temps que vous quittiez votre poste, en fait, c'est déjà le temps d'y revenir. Et ça, ça crée non seulement des éléments... Alors, je peux revenir sur des fatigues articulaires. Quand vous sursollicitez, le rythme plus la sollicitation, ça accroît les atteintes potentielles à la santé. Et le fait d'accentuer, même sur une plus courte durée, la charge de travail, peut aussi avoir des effets délétères. Tout dépend comment les choses s'organisent, comment on peut organiser le travail, comment la charge de travail est prévue. Puis, il faut quand même se dire, hein, ce n'est pas juste une question de poste individuel. C'est aussi, si vous avez une organisation, par exemple, telle qu'elle vous permette de ne pas avoir autant de bugs à gérer quand le travail vous arrive. Ben évidemment que ça va, vous pouvez travailler moins longtemps et en plus ce sera plus confortable et vous pourrez très bien abattre plus de travail parce que vous aurez moins de problèmes à gérer. Mais si l'organisation du travail n'est pas pensée par rapport à ça, à nouveau vous pouvez vous retrouver avec des trucs où ça devient ingérable parce que vous avez à gérer votre boulot dans un temps plus petit et en même temps vous avez à récupérer des choses qui ont mal été faites. Et c'est ça qui va pas, c'est qu'en fait on pense les choses les unes décalées des autres. Donc ça c'est le raisonnement macro, mais dès qu'on arrive à un raisonnement micro dans les entreprises, faut quand même dire qu'il y a plein de choses qu'il faut regarder, qu'on a des outils pour le faire.
Tout d'abord, sur la réduction du temps de travail de façon générale, aujourd'hui, il y a de nouveau des discussions autour de ça. Et c'est intéressant de voir que la littérature qui défend cette baisse du temps de travail n'est pas qu'une littérature syndicale, universitaire, critique, mais il y a aussi une littérature, à proprement parler, patronale, qui défend une réduction du temps de travail. Et voilà, premier réflexe, ça serait de me méfier aussi, du coup, de cette mesure-là, au moins de l'interroger, de pourquoi est-ce qu'il y aurait aussi des employeurs qui défendraient cette réduction du temps de travail. Et ça rejoint ce que vous avez dit, donc parce que potentiellement, ça impliquerait un plus grand investissement des individus dans le travail, plus de productivité, des choses comme ça. Et je rejoins entièrement ce que vous avez dit sur la question des temps de pause. Par exemple, chez PSA, aujourd'hui, il y a deux pauses, une de 10 minutes et une de 31 minutes. Et la pause de 31 minutes peut être raccourcie à 21 minutes si il y a des pertes de production et donc il y aurait des rattrapages de la production, ce qui est quand même assez incroyable. Et ce que disent les salariés, c'est qu'en 10 minutes, ils doivent faire le tri entre les différentes choses qu'ils doivent faire pendant la pause. C'est soit se laver les mains, soit manger, soit aller aux toilettes, soit fumer une clope, etc. Ils n'ont pas 10 minutes pour faire tout ça. Et pareil, j'avais enquêté aussi auprès de médecins du travail qui travaillent pour PSA sur les effets de cette pause très courte sur, par exemple, la digestion, tout simplement. Il faut avaler un repas entier en 21 minutes parce que sinon la chaîne démarre, etc. Et les seules personnes que l'on trouvait au restaurant d'entreprise, c'était les cadres et les délégués du personnel, qui sont les seules personnes qui ont du temps pour pouvoir avoir un repas à temps complet.
Alors, on en vient justement à cette question d'organisation. C'est-à-dire que ce que vous dites l'un et l'autre, si je comprends bien, c'est qu'il faudrait, si on commence à réfléchir à des meilleures conditions de travail, que les employeurs acceptent, et en France, c'est difficile, de ne pas être les uniques promoteurs d'organisation du travail nouvelle, qu'ils acceptent aussi d'entendre ce que disent les travailleurs ordinaires lorsque ces derniers ou ces dernières voient arriver de nouvelles organisations, de nouveaux outils et voient les effets sur leurs tâches de manière très très fine et quotidienne. Est-ce qu'on pourrait le négocier mieux, ça? Parce qu'en France, finalement, on a un historique, je le disais en introduction, qui est pas génial, pour dire le moins, en la matière. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour négocier ça? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire vivre aussi, y compris des mouvements sociaux, là-dessus? Alors que, là encore, hein, du côté syndical également, on n'a pas un investissement démentiel en France sur ces questions-là à l'heure actuelle.
Oh, tu me regardes, donc je suppose que tu veux que je réponde à la question.
Oui.
On a eu quand même des périodes où, en France, où on a discuté sur les conditions de travail. Il hein, y a eu, un, si je me souviens bien, un accord interprofessionnel en 1975 qui abordait... Ouais, ça remonte à 75. Et alors, le truc assez... que tout le monde a oublié, sauf c'est quand même dans la mémoire collective de beaucoup de syndicalistes, c'est qu'une des conséquences de cet accord-là, ça a été de mettre en place une sorte de retraite anticipée pour pénibilité avant l'heure. C'est-à-dire, alors, elle était fixée sur un certain nombre de conditions de travail, par exemple le travail de nuit, le travail à la chaîne, et puis il y avait un critère sur les mères de famille ouvrières. Et en fait, l'idée, c'était justement, c'est assez fou, c'était de permettre à ces personnes-là de partir à la retraite à partir de 60 ans, alors que je rappelle, l'âge de la retraite à l'époque était à 65 ans, à partir du moment où ils avaient une certaine durée de leur vie professionnelle qui était sous certaines conditions. Et alors, En fait, ce dispositif-là a commencé à être adopté. Il y a eu beaucoup de discussions. Dans les branches, il y a eu un début de réclamation de passer par des métiers parce que c'était trop compliqué de passer par ces critères-là. Ça rappelle des trucs. Et en fait, il y a eu tout un mouvement de négociation et de revendication des branches avec des listes de métiers qui ont commencé à se mettre en place. Et puis, qu'est-ce qui a stoppé ça? Bah, ce qui a stoppé ça, c'est que, il y a eu un peu la crise, mais c'est pas tellement ça, c'est qu'il y a eu l'abaissement de l'âge d'ouverture des droits à la retraite à 60 ans. Et en fait, ça a stoppé complètement, puisqu'on a, du coup diminué l'âge des pré-retraites, d'accès aux pré-retraites. On avait ce dispositif-là qui n'avait plus de sens. Et en fait, on a d'une certaine façon oublié la question jusqu'au moment où la pénibilité est revenue avec ce terme-là dans le débat de 2003. La question des conditions de travail, elle a été discutée dans le passé. La question des conditions de travail, elle fait quand même l'objet de discussions dans des branches et dans des entreprises. Alors, il ne faut pas se le cacher, beaucoup dans des très grandes entreprises, parce que les syndicats y sont plus présents, alors que dans les PME, TPE, c'est évidemment plus compliqué, parce que la présence syndicale est plus faible. Et puis, il faut quand même aussi dire une chose, hein, c'est que les ordonnances, parmi les ordonnances de 2017, il y a eu quand même un affaiblissement considérable. Un, les ressources allouées aux représentants syndicaux, donc le temps dont ils peuvent disposer pour se former, pour se documenter sur la réalité du travail dans les entreprises. Il y a aussi une diminution du nombre de représentants syndicaux. Et puis, le fait de supprimer le CHSCT, donc, qui était une instance particulière, à nouveau privée de spécialistes et de temps pour discuter les représentants du personnel, mais aussi la direction des entreprises. Donc, en fait, le constat aujourd'hui, avec ces réformes de 2017 et le passage au CSE, on a diminué nos capacités à traiter la question des conditions de travail, au moment même où on en aurait fabuleusement besoin.
Oui, non, c'est tout à fait ça. C'est un truc qu'on constate dans toutes les entreprises, c'est que surtout les grandes entreprises où la suppression du CHSCT et sa transformation en une commission du CSE, donc pas en une instance indépendante, du coup en transformation dans la CSCCT, ça réduit énormément les moyens aussi de contrôle sur les conditions de travail, etc. Je reviens à l'exemple de PSA où il y avait cette réorganisation du travail et je m'étais penché sur les comptes rendus du CHSCT qui est une des rares instances au niveau du terrain avec une action très empirique, c'est-à-dire il y a tel problème dans tel secteur, dans tel poste de travail, voici l'avis du médecin du travail, voici l'avis de l'inspection du travail, voici l'avis du délégué du personnel de tel syndicat, tel autre, etc. etc. Et il pouvait y avoir des actions comme le dépôt d'un avis de danger grave et imminent qui pouvait arrêter parfois le travail jusqu'à ce qu'un problème soit résolu, etc. Donc il y avait des actions ponctuelles que pouvait avoir le CHSCT dans la gestion des conditions de travail et dans une action sur les conditions de travail. Et ceci disparaît justement avec la mise en place du CSE et qui est une concentration des moyens de la représentation du personnel en entreprise en encore moins de mains. Et donc, les syndicalistes aujourd'hui ont moins de moyens pour pouvoir porter ces questions en entreprise. Après, plus spécifiquement sur la question de la négociation sur l'organisation du travail, bon, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui en France, on ne négocie pas, on négocie peu, on signe peu d'accords sur l'organisation du travail, sur le changement technologique, etc. Il y a un certain nombre de sujets de négociation collective qui sont de plus en plus nombreux. On négocie sur de plus en plus de choses, mais ce sujet reste encore une prérogative de l'employeur. Le CSE est une instance consultative, c'est-à-dire que les syndicats peuvent donner un avis sur un certain nombre de choses, mais c'est un avis. C'est-à-dire l'employeur arrive, on va supprimer une des deux lignes de montage, on va introduire tel robot, etc. Les syndicats donnent leurs avis, mais ça s'arrête là. Les autres instances de représentation du personnel, comme les délégués du personnel, le CHSCT, bon, on a déjà dit qu'ils se sont fondus dans le CSE, etc. Et pourquoi est-ce que c'est le cas? Il y a des hypothèses. Moi, je reprends celle de Thomas Coutreau qui dit que, parce qu'en France, il y a une tradition de négociation sur le prix du travail, donc sur le salaire et le temps de travail, qui est souvent indexé au salaire, et moins sur le contenu du travail, parce que la tradition plutôt anarcho-syndicaliste, libertaire, etc., qui voudrait changer le contenu du travail, changer le travail, a perdu face à une tradition plus social-démocrate, communiste, etc., qui concentrerait davantage sur la négociation du poids des chaînes que sur l'existence même des chaînes, des choses comme ça. Il y a eu quelques tentatives, vous avez mentionné l'accord national interprofessionnel de 1975, il y a eu quelques tentatives aussi dans l'accord interprofessionnel de 2013, il y a eu quelques très très rares, expériences très minoritaires, comme celle de Renault, où il y a eu l'équipe de Yves Clos qui a suivi aussi, qui a mis en place des ateliers dialogiques, comme il l'appelle. Moi, je suis pas entièrement convaincu de ça parce que implicitement, ça a tendance un peu à rejeter la faute à égale part entre les organisateurs du travail, donc l'employeur, et les salariés, alors que la relation salariale est une relation fondamentalement inégalitaire. Donc voilà. Donc c'est quelque chose qui reste encore à changer. Alors que dans d'autres pays, en Europe notamment, il y a une négociation sur le contenu du travail, sur l'organisation du travail, sur le changement technologique, etc., etc., comme en Allemagne.
Alors, on parlait à l'instant beaucoup d'investissement syndical là-dessus ou de faiblesse des ressources pour que les syndicats s'en emparent ou les représentants des travailleurs en général. Du côté patronat aussi en France, si on regarde ça avec cette focale, finalement, moi, ce dont j'ai l'impression, mais vous me direz si c'est juste, c'est que les discours qui sont tenus à des patrons ou par des employeurs en France sur des questions d'organisation du travail ou de changement technologique sont très souvent des discours qui sont assez désincarnés, qui se passent pas à partir du terrain de leurs entreprises, mais à partir de ce que McKinsey ou pire encore, des éditorialistes que tu mentionnais tout à l'heure, peuvent voir de loin sur ce que c'est que l'intelligence artificielle, ce que c'est que le futur du travail au sens le plus éthéré et très peu réaliste du terme. Il n'y a pas beaucoup d'appétence du côté patronal pour, à l'heure actuelle, une discussion, ne serait-ce qu'une curiosité sur ce qui se passe à l'heure actuelle dans le détail de leur organisation, où je force le trait quand je dis ça en disant que les grands patrons français sont aveugles à leurs propres organisations du travail. Est-ce qu'on peut faire mieux ?
Je pense que déjà, on peut se dire que la taille d'une entreprise ou d'un groupe, évidemment, quelqu'un qui est à la direction d'un groupe n'a généralement pas fait de passage dans l'ensemble des structures. Il ne peut pas connaître la finesse du travail. Enfin, je veux dire, on ne peut pas demander. Ça semblerait excessif. Par contre, la question qui peut se poser, c'est dans quelle mesure la ligne hiérarchique prend en compte ces aspects-là. On sait que, par exemple, l'encadrement de proximité connaît quand même un certain nombre de problématiques, règle d'ailleurs un certain nombre de problématiques sans même en référer à l'échelon supérieur, donc par exemple sur des absences, sur la régulation des charges. Alors ça peut être plus ou moins bien fait avec plus ou moins de soucis d'équité, mais il y a quand même énormément de choses qui sont faites par l'encadrement intermédiaire, enfin de proximité et intermédiaire, sans que ce soit vraiment visualisé. Donc la question, c'est d'une part, qu'est-ce qui fait que ces informations ou ces éléments de finesse ne sont pas pris en compte dans les échelons supérieurs? Qu'est-ce qui fait qu'on multiplie des injonctions descendantes sans regarder à quel point elles peuvent contredire des besoins du terrain? Donc ça peut renvoyer à tout un discours sur le scoring, le développement du scoring, la multiplication des indicateurs donc à remplir, des choses qui en fait rajoutent beaucoup de pression, de charge mentale et font perdre du temps dans la régulation fine du travail par encadrement de proximité. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que cette différence, enfin cette tendance que tu évoques, elle est pas répandue donc chez tous les employeurs. Donc elle dépend de la taille de l'entreprise, elle dépend du passé professionnel du dirigeant. Donc on peut trouver dans des ces grosses structures, des gens qui ont une attention à ça et qui intègrent ça dans leur réflexion et dans leur prise de décision. Et on peut trouver dans des petites structures des employeurs qui ont plus de mal qui ont tout simplement pas le temps de prendre ça ou pas les moyens. Donc voilà, c'est partagé. C'est pas forcément dans les plus petites où on est quand même plus proche du travail qu'on a les moyens de s'occuper de ces choses-là. Et dans les grosses, on est à distance et il y a plein d'éléments qui jouent. Et il y a aussi un élément sectoriel là-dedans. Et ça s'est bien vu quand il y a eu le mouvement de bronca d'une partie du patronat contre le compte pénibilité, où on voyait bien qu'en fait, pour une partie des employeurs, dans certaines branches, ils étaient déjà partis à négocier des référentiels de branche. Pour eux, ça semblait une bonne idée de prendre en compte des questions de santé, de pénibilité, etc. Ils le voyaient plutôt comme un élément positif, et même si ça pouvait sembler compliqué à mettre en place, ils réfléchissaient à des moyens de faire ça un peu autrement, et les référentiels de branche ont beaucoup aidé. Et puis, dans d'autres secteurs, ils étaient farouchement opposés à ça, en mettant en avant l'impossibilité de toute mesure. Donc évidemment, quand on voit que certaines branches ont fait des référentiels plutôt intelligents, bien conduits, etc., alors que d'autres arguaient que c'était impossible, on peut se dire qu'il y a quand même des éléments sectoriels, composition de la population des employeurs, de façon de travailler des fédérations patronales, qui font que ça marche plus ou moins bien. Peut-être que la pression concurrentielle joue aussi, mais enfin, on retombe sur un problème de fond qui est le savoir négocier, le savoir discuter, le savoir écouter, et puis des capacités aussi à trouver les mots justes, à se représenter ce que c'est que le travail. Si je peux me permettre de dire ça personnellement, moi, en tant qu'économiste, j'ai pas été formée à analyser le travail. Et c'est pour ça que j'ai travaillé avec des ergonomes. Je me suis un peu branchée sur les ergonomes à partir des années 2000. Hein, que je les ai entendus. J'ai entendu des présentations de Serge Volkoff et Antoine Laville à ce moment-là. Et je me suis dit, mais enfin, c'est incroyable qu'on m'ait jamais appris ça. Alors même que j'ai été pendant un temps dans une filière de gestion. Et il m'a fallu, je pense, 10 ou 15 ans de réunions avec eux. On a fini par aller sur des terrains ensemble. Et aujourd'hui, je crois que je comprends à peu près ce sur quoi on peut regarder. Je suis pas ergonome, hein, mais je vois à quel point ça nécessite d'avoir l'œil exercé et d'avoir le vocabulaire pour dire ben ça, là par exemple il y a un problème d'organisation, là par exemple il y a une question de charge mentale, là par exemple le poste est sans doute trop près de l'autre poste et il n'y a pas de possibilité de circulation. C'est des éléments que j'arrive à voir maintenant parce que j'ai travaillé avec eux. Et donc pour revenir à la question des syndicats et des représentants du personnel, s'il n'y a pas d'instance dans lesquelles on aborde ces questions-là de façon continue pour se former, et donc souvent on pense le dialogue pour la négociation, mais dans le dialogue, il y a la préparation à la négociation, il y a le partage de connaissances. Et ça, c'est de l'investissement dans le temps. Si on n'a pas la structure pour le faire, bah cette acquisition-là, elle ne se fait pas.
Oui, non, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. J'ajouterais aussi que, enfin, plutôt, j'irais dans le sens de la transformation des entreprises qui serait un facteur qui pourrait expliquer le fait que les directions d'entreprise s'intéressent, somme toute, assez peu au contenu du travail, à l'organisation du travail, etc. Par exemple, il y a un changement aussi dans le rôle des managers qui, pour un certain nombre d'entre eux, ont fait des carrières à l'intérieur de l'entreprise, qui, pour un certain nombre d'entre eux, connaissaient le travail parce que pouvaient être proches des ateliers, etc. Mais, comme aujourd'hui, il y a un marché du travail des grands dirigeants, ben en fait, ils circulent d'entreprise en entreprise et sans avoir une connaissance relativement fine et de longue date aussi des réalités du travail, contrairement plutôt à l'encadrement de proximité, etc. Il faut ajouter à cela ce que vous avez dit, c'est le rôle des cabinets de conseil qui est très important aussi dans la création de préoccupations, d'inquiétudes, etc. Dans le cas de Renault, un grand cabinet de conseil est venu dire à la direction d'entreprise, voici ce que c'est que la 4e révolution industrielle, il faut faire ça, sinon vous allez être en retard, sinon vous allez devenir Fiat. Fiat, à ce moment-là, était très mal en point, etc. Et personne ne voulait devenir Fiat. Donc, il y a ce rôle aussi de pression externe des entreprises. D'ailleurs, au détriment des équipes internes des entreprises, notamment les départements de recherche et de développement qui ont des compétences internes et qui ont des compétences souvent qui sont bien plus importantes que celles des cabinets extérieurs. Il y a d'autres facteurs comme la financiarisation des entreprises, les contraintes de budget, de temps, le rôle de plus en plus important des contrôleurs de gestion dans les entreprises, dans la gestion des établissements industriels. Par exemple, quand il y a un nouveau projet de véhicule, il s'agit non plus de dire « Ok, combien est-ce que ça va nous coûter ?» mais plutôt « Ça ne peut pas coûter au-delà de ça. » Et ceci a des effets directs sur l'organisation de travail, sur le flux tendu, etc., etc. Donc voilà, il y a tout un tas de facteurs qui font que l'organisation du travail disparaît comme une préoccupation aussi des employeurs eux-mêmes, quoi. Je reviens sur une dernière chose, c'est qu'ils peuvent être aussi victimes de ces discours qui sont la plupart du temps médiatiques. Donc tous ces hypes sur le futur du travail, etc., sont des discours médiatiques, mais qui sont importés de l'extérieur dans les grandes entreprises, ce qui est quand même assez paradoxal. Alors que quand on demande à des ingénieurs qui ont des compétences sur ces questions-là, qu'est-ce que vous en pensez ? Évidemment, ils sont pas dupes, ils savent très bien que le travail ne va pas disparaître, que le numérique a des applications très concrètes qui complémentent le travail humain, qui ont des effets paradoxaux, comme on a déjà dit, etc.
Alors, une autre question qui se pose quand on parle d'avenir du travail et d'avenir de l'organisation du travail, c'est l'effet du vieillissement, tout simplement, de la population et du fait qu'on a des carrières qui vont s'allonger manifestement. Comment est-ce qu'on fait, alors à l'heure actuelle, on fait, si je vous suis l'un et l'autre, pas grand-chose, mais comment est-ce qu'on peut faire mieux, là encore, en matière d'adaptation des conditions de travail et des organisations du travail pour avoir des personnes qui sont des seniors, pour faire en sorte que leurs conditions de travail soient pas trop pénibles, pour faire en sorte que on ait aussi ici des organisations qui soient plus, j'ose pas dire vertueuses, mais au moins accueillantes.
Bah, déjà, peut-être on peut se poser la question de ce que veut dire le vieillissement au travail, hein, c'est-à-dire... Moi, je suis un peu embêtée parce que toute la discussion, ça fait quand même depuis 2003 que ce truc-là est discuté. La question de l'emploi des seniors, par exemple, qui est devenue une espèce de ligne de mire, là, une espèce d'objet qui est censé avoir du sens en lui-même. Bon, on a construit en fait cette question d'emploi des seniors. Essentiellement, enfin, ça avait du sens en France, par exemple, parce qu'on avait pas mal de pré-retraites, mais on n'était pas les seuls. Hein. En Europe, il y a eu beaucoup d'autres pays qui ont eu des dispositifs qui permettaient de partir avant l'âge d'ouverture des droits à la retraite. Donc, on avait en fait à inverser un certain nombre de pratiques à la fin des années 90, début des années 2000. Donc, voilà, ça a été plus ou moins tôt dans certains pays. Donc, on a installé cette question-là au niveau européen avec une cible pour l'emploi des seniors afin de guider des comportements pour résoudre ce décalage-là qui était annoncé. Bon. Il y avait derrière le constat depuis les années 80 que les espérances de vie augmentaient. Aujourd'hui, on en est où aujourd'hui ? On en est au fait que la question des pré-retraites en France, d'abord, il n'y a plus de pré-retraite publique en France, hein, ou quasiment pas. Donc, l'idée qu'on a encore des gens qui partent en pré-retraite, il y a des retraites anticipées, ce qui n'est pas la même chose. Les retraites anticipées sont liées à des critères, hein, qu'on a définis qui permettent aux gens de partir de façon anticipée, mais ils sont à la retraite. Donc on peut dire que c'est comme des pré-retraites, mais la réalité, c'est qu'ils perçoivent une pension de retraite et que c'est un aménagement des règles de droit aux pensions de retraite. Il reste la question très présente encore des 60 et 64 ans. Ça vous a pas échappé que là, tout le monde est en train de se focaliser dessus. Mais en réalité, cette question-là, je dirais pas qu'elle est en train de se régler progressivement, mais le fait d'avoir décidé que la durée d'assurance requise allait passer progressivement à 43 ans, plus l'âge auquel on sort de l'enseignement obligatoire en France depuis les années, ça fait un moment maintenant, bah en fait pousse naturellement les gens à partir plus tard. Donc en fait, cette question-là qui est omnubilée, c'est pas une question de comportement individuel, parce que les gens en fait sont en train de décaler leur comportement. En fait, ce qui reste, c'est quoi ? Bah, il reste que la question de l'emploi. Donc c'est pas seulement la question de l'emploi des seniors, c'est la question de l'emploi en général. Alors je voudrais pas forcément dire la croissance économique, même si les économistes ont beaucoup regardé ça, mais la réalité, c'est que quand il y a de l'emploi en suffisance, que le chômage est pas monstrueusement élevé comme ça l'a été pendant très longtemps en France, la question de l'emploi des seniors est peut-être pas si importante que ça. Il reste des questions de conditions de travail, de maladie, mais c'est pas forcément les seniors. Comment est-ce qu'on peut travailler quand on a des atteintes à la santé, qu'est-ce qui permet de travailler à des âges plus tardifs. Je rappelle quand même que l'espérance de vie, ça se joue pas à la fin, et les conditions de travail qui permettent de travailler, ça se joue pas qu'à la fin. Moi, je trouve qu'il faudrait arrêter de parler des seniors et se dire, bon, il faut que les gens restent en emploi tant qu'à faire jusqu'à la retraite, et on a beaucoup à faire, que ce soit sur l'organisation du travail, le contenu du travail, les formations initiales, les conditions dans lesquelles on accueille les nouveaux entrants. Je ne vais pas seulement parler des jeunes. Il y a quand même beaucoup d'accidents du travail qui concernent des jeunes, des intérimaires, donc des gens qui ne sont pas là tout le temps. Et évidemment, quand vous en avez un accident du travail dans votre parcours professionnel, ça obère quand même pas mal de choses. Ça peut vous altérer définitivement une capacité à travailler dans le métier que vous aviez choisi. Donc, pour moi, c'est vraiment une réflexion de fond qu'il faut avoir, et sur emploi des seniors, faut essayer de régler quelques problèmes, mais enfin, moi, je suis frappée du fait qu'on ne dit rien de l'ensemble de notre positionnement concurrentiel, des activités qu'on veut faire, de ce sur quoi on veut mettre de l'argent. Les activités développées en France économiques sont très importantes pour offrir de l'emploi et donc, entre guillemets, régler aussi la question de l'emploi des seniors.
Il faut s'intéresser aux conditions de travail en général et pas seulement à celles des seniors.
On peut faire des choses ponctuellement pour des besoins. Mais par exemple, l'idée qu'il faut aménager le temps de travail pour les seniors, bon, c'est vrai qu'il y a des problèmes de fatigue particulière qui peuvent se poser. On sait qu'on a plus de mal à récupérer, que le sommeil est plus altéré. Si vous avez travaillé de nuit, en plus, votre sommeil est durablement et définitivement altéré. Mais vous pouvez avoir des gens qui se retrouvent avec les mêmes problèmes. Par exemple, voilà, les parents d'enfants avec des maladies, avec des handicaps, le fait que vous ayez pu avoir une atteinte à la santé, même à des âges jeunes. Enfin, les cancers chez les jeunes travailleurs existent. Hein. Donc, c'est pas seulement un regard à porter. La question, c'est de quels besoins on a, quelles sont les conditions. Enfin, qu'est-ce qu'on offre comme aménagement du temps de travail ou des conditions de travail à des travailleurs qui en ont besoin, quel que soit leur âge, à la limite.
Oui, oui, tout à fait. Quand on se pose la question du vieillissement, implicitement, et bien souvent, on ne se pose pas la question de qu'est-ce que c'est que vieillir, et qu'est-ce que c'est que vieillir en mauvaise santé après avoir travaillé dans des métiers manuels, pénibles, avec des contraintes physiques, etc. Par exemple, dans l'industrie, beaucoup de syndicats revendiquent la retraite à 57 ans, à taux plein, parce que qu'est-ce qui se passe? À partir de 50 ans, le nombre de salariés qui ont des restrictions médicales est très important. Et donc, ils doivent traverser une sorte de désert entre 50 ans et ce que l'entreprise leur permet, c'est-à-dire 57 ans de pré-retraite. Pendant 7 ans, ils sont un peu sur la sellette, en quelque sorte. Il y a toujours le risque que le médecin du travail les déclare inaptes à tout poste. Et dans ce cas-là, ils sont vraiment dans une situation très, très, très compliquée. Il y a eu récemment, dans le débat sur la réforme des retraites, un plateau de télé où il passait une vidéo d'un travailleur de la logistique qui disait « Moi, je veux la retraite à 55 ans ». Et cette séquence est suivie de rires gras d'éditorialistes, oh, qu'est-ce que c'est ridicule, etc. Pourtant, la logistique aujourd'hui est un des secteurs les plus accidentogènes avec le BTP. On n'y pense pas, mais tous les personnes et les aides à domicile, absolument. On n'y pense pas que les aides à domicile ou que les travailleurs de la logistique sont des travailleurs qui ont des corps cassés très jeunes et donc pour qui la retraite à 64 ans pose aussi des enjeux de survie. Et donc, tout se pose la question de comment vieillir, sous quelles conditions. Et ça ramène à la question des postes aménagés. Un des problèmes des réorganisations du travail, des nouvelles organisations du travail, des nouvelles technologies, est de supprimer, d'automatiser parfois, ces postes aménagés qui sont souvent des postes qui sont dédiés aux personnes avec des restrictions médicales. Je reviens à l'exemple que j'ai donné au tout début. Quand PSA crée la zone de kitting où il y a ces kitteurs qui assemblent les kits pour être livrés au poste de montage, PSA supprime les postes de préparateur dans l'espace de préparation, qui est un poste qui n'est pas soumis au rythme de la chaîne, même s'il y a des contraintes, etc., qui était un poste où il y avait des vieilles femmes, des personnes avec des restrictions médicales, des personnes vieillissantes, etc. Et ces postes ont été supprimés. Et toutes ces personnes ont été ensuite redistribuées au poste de montage, au poste de kitting, etc. Pourtant, c'est des gens qui ne peuvent pas tenir le rythme de la chaîne, qui ne peuvent pas tenir le rythme du kitting, qui est le rythme en fait, c'est un poste comme dans un entrepôt logistique, d'assemblage de kits, etc. Et donc, tout se pose la question de certes, à quel âge partir, sous quelles conditions, mais aussi la question toujours des conditions de travail, de tous ces postes à faible valeur ajoutée, comme les présentent les entreprises, de leur existence dans les entreprises, etc.
Merci beaucoup pour cet échange qui, moi, m'a rappelé mes jeunes années de thèse où je travaillais sur l'encadrement de proximité face aux risques psychosociaux. Donc, c'était pas loin de le genre de choses qu'on a discuté à l'instant. J'en retiens deux choses. Il faut quand même de l'investissement syndical dans la matière sur les conditions de travail et l'encourager, et y compris de la formation. Et puis, justement, si on peut, si moi, à titre personnel, je dois en retenir quelque chose, c'est qu'en tant que prof qui forme des gens qui, plus tard, auront des carrières de manager, il faut aussi, ne serait-ce que leur donner quelques outils conceptuels pour commencer à s'intéresser à ce que c'est que les conditions de travail, l'organisation du travail, dans le détail et pas simplement comme quelque chose dans une fonction de coupe de glace. Voilà.
Moi, je pense que, vu le nombre de lycéens qui, chaque année, partent en stage en entreprise, je pense qu'un minimum d'informations sur les droits en entreprise, sur les points de vigilance à avoir par rapport à ce qu'on vous demande, par rapport aux conditions de travail, serait nécessaire. Et dans toutes les filières professionnelles, en fait, bon, certaines forment là-dessus, mais il y en a qui oublient complètement, par exemple, les risques chimiques. Et il y a vraiment des choses qu'on pourrait, sans trop de mal, commencer à sensibiliser et à créer quand même un petit regard critique dès le moment où l'entrée en entreprise et dans des administrations publiques, hein, parce qu'il n'y a pas que les entreprises, hein, fonction publique dans tous les sens est pas mal, voilà, ça serait bien.
Merci à tous les deux, merci Sébastien, merci Annie. Merci encore à Citeco pour leur accueil et puis merci à Nouvelles Écoutes.
C'était vraiment très intéressant.
Alors, le travail du futur verra-t-il disparaître la pénibilité? Rien n'est moins sûr. En fait, ça dépend essentiellement des conflits sociaux qui vont se nouer autour de ces questions et des négociations qui en découlent ou pas. Une chose est sûre en revanche, il n'y a pas de déterminisme technologique. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'une technologie permet de réaliser certaines tâches plus vite qu'elle va nécessairement supprimer des emplois ou bien réduire le temps de travail. On peut espérer que les acteurs syndicaux, et pourquoi pas les directions d'entreprise, entrent un peu plus dans le détail des transformations du travail en cours et à venir, plutôt que d'écouter les grands discours abstraits sur la 4e révolution industrielle ou la fin du travail. Espérons même que cet épisode contribue à les faire réfléchir. Ah, et au passage, un grand merci à Citeco de nous avoir accueillis à nouveau à l'occasion de son festival Éco-Côtier qui vise à faire découvrir les sciences économiques et sociales. Et ça tombe bien, dans Splash, on est un peu là pour ça aussi. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles sur les plateformes, ça nous aide à être mieux référencés. À lundi prochain! Splash est un podcast de nouvelles écoutes, écrit et animé par moi, Emmanuel Martin. Prise de son à l'auditorium de la Citéco par David Aguilera. Montage et mixage Adrien Beccaria à l'arrière-boutique studio. Réalisé par Adrien Beccaria et Mathilde Jolin. Produit par Julien Neuville. Directrice générale adjointe Nora Issem. Directrice des productions Marion Gourdon. Directrice artistique Aurore Mailleux. Chargée de production Mathilde Jolin avec l'aide de Neila Agni.